Objection. Est-ce qu'il n'y a pas des langues sans première personne? Benveniste, consacre, qui est un excellent linguiste, donc là je ne me permets pas de... Benveniste dit que même quand la première personne n'apparaît pas, sa place est là. Bon. Il invoque le japonais. Tu confirmes. Très bien. Bon, il va de soi là-dessus que, dans une phrase, ce « je » comme sujet d'énonciation peut être sous-entendu. Il ne faut pas me citer des phrases où il n'y a pas, qui ne soient pas du type « je le jure », ça évidemment, il y en a plein. Et qu'il soit sous-entendu, ça change rien. La phrase renvoie à un sujet d'énonciation sous-entendu ou exprimé. Bien. En d'autres termes, je dirais, ce sujet d'énonciation, c'est une constance intrinsèque. C'est une constante intrinsèque. Là-dessus, vous remarquez que n'importe qui peut venir à la place de ce « je » linguistique. Et « je » celui qui le dit. En effet, je dis « je », mais toi, tu vas dire « je » tout à l'heure, ou tu dis « je » en même temps. Et « je » celui qui le dit. Donc, la formule de la phrase, là, c'est « constante intrinsèque, variable extrinsèque ». La constante intrinsèque, c'est le sujet d'énonciation, le sui référentiel, l'embrayeur, les variables extrinsèques, c'est l'infinité des individus qui peuvent dire « je ». D'accord ? Je définirai donc la phrase par sa constante intrinsèque. Les variables étant nécessairement extrinsèques. C'est la forme du « je » en linguistique. Bien. Eh bien, peut-être que c'est valable pour les phrases, tout ça, mais ça montre que les phrases, c'est pas un truc bien intéressant. Car, et je réenchaîne avec Foucault, car au niveau des énoncés, vous allez voir tout à fait autre chose. Un énoncé, il renvoie bien à un sujet. Ça oui, pas de problème, il renvoie à un sujet. Ah, mais ça se complique parce que non seulement il renvoie à un sujet, mais il risque de renvoyer à plein de sujets. Il en a plutôt trop. Vous sentez déjà que le « je » ne va pas du tout convenir pour exprimer le sujet de l'énoncé. Il en a trop de sujets. Parce que, d'une part, voilà, d'un énoncé à l'autre, le sujet risque fort de varier en nature. Deuxième point, pour un même énoncé, il y a bien des risques pour qu'il y ait plusieurs sujets. Bien entendu, qui ne se réduisent pas à un « nous ». Plusieurs sujets hétérogènes. Oui. Commençons alors. Plusieurs... Suivant les énoncés, le sujet est très différent. Ben oui. Voilà un texte curieux tiré d'une conférence qui était « Qu'est-ce qu'un auteur ?» Foucault dit « Un auteur, est-ce qu'un énoncé a nécessairement un auteur ?» Il dit « Non, un énoncé peut avoir un auteur. Il y a certains énoncés qui ont un auteur. » Notamment, par exemple, les énoncés littéraires. On me dit quelque chose, je dis, c'est de qui ça? On me répond, c'est de Victor Hugo. Il y a un auteur. Donc, certains énoncés ont pour sujet d'énonciation, un auteur. Mais il y a des énoncés qui n'ont pas d'auteur. Par exemple, une lettre que j'écris. Est-ce que je veux dire je suis l'auteur de la lettre? Oui, parfois. Je dirais je suis l'auteur de la lettre si c'est une lettre criminelle anonyme. À ce moment-là, auteur signifie plus auteur littéraire, ça signifie auteur du délit. Une lettre anonyme à un auteur. Autor delictis. Vous voyez, je viens de faire comme Kraft et Bing. Je viens de produire un énoncé. Comme dit Foucault, les énoncés, c'est pas difficile à produire. On en produit tout le temps et pourtant ils sont rares, il dit. En effet, parce que c'est très cohérent les deux choses. Bon, peu importe. Alors, bon, une lettre, sinon, ça n'a pas un auteur. Ah, et ça n'a pas un auteur, ça a un signataire. Est-ce que la fonction auteur, c'est la même chose que la fonction signataire? Non. Si j'écris à un copain, je ne peux pas venir au rendez-vous, salut, je ne peux pas dire que je suis auteur de la lettre, je suis signataire de la lettre. Hein. Mais si je suis Madame de Sévigné, ah, ça se complique. Je suis signataire par rapport à ma fille à laquelle j'écris, ma fille bien-aimée. Mais je suis aussi auteur, puisque ma fille fait circuler dans les milieux littéraires ma lettre en disant, vous avez vu la lettre que ma mère vient de m'envoyer, qu'est-ce qu'elle est bien, et qu'on fait des lectures publiques de la lettre de Madame de Sévigné, elle est auteur. Voilà qu'un même énoncé a deux sujets. Madame de Sévigné comme auteur, Madame de Sévigné comme signataire. C'est pas pareil. Bon. Prenons alors un cas comme Proust, invoqué par Foucault. La première phrase de la recherche du temps perdu, longtemps je me suis couché de bonne heure. Foucault demande, il pose une question très simple, mais là je crois qu'on est armé pour la comprendre maintenant. Est-ce que c'est une phrase, elle reste la même. Est-ce que c'est le même énoncé? Si c'est moi qui le dis, j'ai pu le dire par hasard un jour. J'ai dit à un ami comme ça, « Oh, tu sais, longtemps je me suis couché de bonheur, sans savoir que c'était dans Proust. » C'est pas une phrase très très compliquée. Je ne suis pas auteur, je suis à ce moment-là locuteur de la phrase. Mais quand Proust l'écrit comme première phrase de la recherche du temps perdu, il est auteur de la phrase. Et est-ce que la phrase ne renvoie qu'à un auteur? Non. Elle renvoie à un narrateur qui n'est pas l'auteur. La phrase a deux positions de sujet. L'auteur, le narrateur. Une lettre à un signataire et pas forcément un auteur. Et Foucault continue. Un contrat à un garant. En effet, c'est le terme technique. Il n'a pas d'auteur. Un texte que l'on lit dans la rue sur un mur a un rédacteur. Pas la même chose qu'un auteur. Vous voyez, il y a énormément auteur, narrateur, rédacteur, signataire. Enfin, la liste est ouverte. Vous pouvez en inventer plein. Et j'insiste que dans mes exemples, j'ai déjà débordé sur l'autre cas, à savoir un même énoncé qui renvoie à plusieurs types de sujets. L'énoncé de Madame de Sévigné, l'énoncé de Proust qui passe par un auteur et un narrateur. Ou bien, pour ceux qui étaient là les autres années, on est resté là-dessus assez longtemps, l'exemple du discours indirect libre. Dans le discours indirect libre, vous avez court-circuit de deux sujets de positions absolument différentes. Je redis très rapidement pour ceux qui n'étaient pas là pour qu'ils comprennent, parce que là c'est lumineux. Un énoncé de discours indirect libre, c'est très intéressant, c'est exactement un énoncé que vous mettez dans une énonciation qui ne dépend pas du même sujet d'énonciation. Si vous voulez, c'est « Je lui dis de ne pas faire ce voyage. » elle prendrait toutes les précautions et n'avait pas de conseils à recevoir de moi. Et cette forme que vous trouvez très souvent dans le roman, c'est un discours indirect libre, parce que le discours indirect se serait. Je lui dis de ne pas faire ce voyage. Elle me répondit qu'elle prendrait toutes les précautions et qu'elle n'avait pas de conseils à recevoir de moi. Et là, il y a une espèce de rupture. Je lui dis de ne pas faire ce voyage. Il n'y a pas « elle me répondit que », il y a « elle prendrait toutes les précautions », etc. C'est le sujet d'énonciation, elle, qui vient se glisser dans mon énoncé dont je suis le sujet. Il y a comme glissement d'un sujet d'énonciation dans un autre sujet d'énonciation. C'est un très beau cas, le discours indirect libre. Alors les linguistes, ils sont, pour rendre compte du discours indirect libre, ils échafaudent parfois des théories passionnantes, c'est un très très beau problème. Une fois dit, quand ils sont stupides, ils disent que le discours indirect libre, c'est un mixte de discours direct et indirect. Ça, c'est idiot, quoi, ça n'a aucun intérêt. En plus, c'est pas vrai. Grammaticalement, c'est pas vrai, puisqu'il y a des temps grammaticaux du discours indirect qui ne correspondent pas au temps ni de l'un ni de l'autre. Donc, il y a une originalité du discours indirect libre. Et vous voyez, il y a émission d'un sujet. C'est comme un vampire. Le discours indirect libre, c'est un sujet d'énonciation qui vient vampiriser un autre. Très beau cas. Là, vous avez un énoncé qui renvoie à deux sujets d'énonciation. Bien. Ce qui revient à dire quoi? Eh bien, toutes ces positions de sujet. Bien plus je reviens à Kraft et Bing. Hein. Lui, c'est encore autre chose. On pourrait continuer la liste de Foucault. Les énoncés de Kraft et Bing, ils ne renvoient pas à un auteur, ils renvoient à quoi? Quelque chose de très très spécial dans la littérature. C'est ce qu'on appelle une compilation, un compilateur. C'est une très vieille chose, le compilateur. Heureusement qu'il y en a eu, car c'est une chose qui, à mon avis, se forme chez les Grecs et les Latins. Je dis heureusement qu'il y avait des compilateurs, puisque comme on n'a plus beaucoup de textes des Grecs et des Latins, une grande partie du peu qu'on a nous vient de compilateurs. Alors un compilateur, par exemple, il y a un compilateur célèbre chez les Romains, très très utile, c'est une source de tout, c'est Olugel. Olugel, il fait un livre qui est composé de petits chapitres sur dans quelles circonstances le poète tragique a-t-il dit ceci. Et il cite 5 vers d'une tragédie perdue. Voyez, c'est une espèce de compilation. Chez Montaigne, il y a encore une espèce d'aspect, bien qu'il ne soit pas que compilateur, une espèce de compilation en acte. Bon, c'est très important, les compilateurs, parce qu'on connaît grâce à eux des choses. Ben, je dirais que Kraft et Bing est un compilateur, mais les énoncés de Kraft et Bing renvoient une position de sujet, dès lors, compilateur. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Je conclue rapidement. Ce second point. Je dirais, contrairement aux phrases qui renvoient à une constante formelle, première personne, je comme première personne ou sujet d'énonciation, l'énoncé renvoie à des positions variables de sujet, parfois plusieurs pour un seul. Et vous allez tout comprendre. Toutes ces positions de sujet s'ordonnent dans la cohorte, dans le long cortège d'un « on parle ». Ce sont les figures d'un « on » plus profondes que tout « je ». Et là, Foucault retrouve une nouvelle fois Blanchot, qui, à ma connaissance, est celui qui est allé le plus loin dans la direction suivante. Destituer la personnologie linguistique d dénoncer les personnes grammaticales au profit d'un « il » ou d'un « on » plus profond. C'est-à-dire, c'est l'anti-benveniste. Benveniste dénonce la troisième personne comme une fausse personne. Blanchot brandit le « on » comme l'expression de la non-personne. Et c'est la non-personne qui est le véritable sujet de l'énoncé. Si bien que toutes les positions de sujet, toutes ces positions variables qu'on vient de voir, viennent tour à tour marquer des figures du « on » sans briser l'anonymat de ce « on ». Et c'était le rêve de Foucault, quand il disait dans l'ordre du discours, « prendre ma place dans un murmure anonyme », c'est-à-dire le nom propre n'est plus qu'une figure de ce « on parle ». Madame de Sévigné, tout ça, toutes les positions de sujet s'alignent comme les variables d'un « on parle ». Vous comprenez ? Ce qui revient à dire quoi ? Ce qui revient à dire, on a vu tout à l'heure, la phrase se définissait par une constante intrinsèque et des variables extrinsèques. Constante intrinsèque, c'était le « je » comme sujet d'énonciation. Variable extrinsèque, tous les individus qui pouvaient dire « je ». Je dirais, l'énoncé au contraire, se définit par un ensemble de variables intrinsèques. C'est la notion de variable intrinsèque. Et ça s'enchaîne très bien avec mon premier niveau. Mon premier niveau disait, l'énoncé se définit par des règles de passage entre systèmes hétérogènes. Mon deuxième niveau dit, l'énoncé se définit par des variables intrinsèques, à savoir l'ensemble des positions de sujet auxquelles il renvoie. Chaque position de sujet étant dès lors une figure du long. C'est un antipersonnalisme absolu. Il n'y a ni constante intrinsèque, ni variable extrinsèque. Il n'y a que des variables intrinsèques de l'énoncé. Et là encore, c'est très proche de Leboeuf. Leboeuf aussi, qui fait une théorie des variables intrinsèques de la langue. Et là, on a bien travaillé. Alors, j'en suis au troisième niveau. Là, vous devriez pouvoir deviner quel est ce troisième niveau. Je vous le dis pour que vous y réfléchissiez. Cette fois-ci, on revient à la proposition. On nous dit qu'une proposition a un référent. C'est-à-dire qu'elle renvoie à un état de choses. L'état de choses peut ou non remplir la référence. Je dis le ciel est bleu. La proposition renvoie à un état de choses. Ciel bleu. Il se peut que le ciel soit noir. À ce moment-là, la référence de la proposition n'est pas remplie, n'est pas effectuée. Ça n'empêche pas que la proposition ait une référence. Je dirais que dans le cas d'une proposition, il y a référence à un état de choses, c'est la constante. C'est la constante intrinsèque. Et l'état de choses est là ou n'est pas là pour remplir, pour effectuer la référence. C'est la variable extrinsèque. Bon. Pour un énoncé, c'est pas du tout ça. Pour un énoncé, c'est complètement différent.